Les gens les plus ouverts, les plus responsables, les plus éveillés, les plus woke de ma génération avaient ceci en commun, qu'ils adoraient prendre l'avion et si possible pour les destinations les plus lointaines rendues soudainement accessibles par l'irruption des vols low cost. Là où les générations Interrail et Euroline s'étaient limitées à l'exploration du bloc de l'Est et de ses ruines léninistes, la génération Ryanair a pu se lancer dans l'exploration systématique des richesses de l'hémisphère sud. L'hémisphère sud adorablement redessiné un ou deux siècles plus tôt par l'esprit pionnier de l'impérialisme, pour ne laisser figurer sur la carte mentale des Européens de ma génération que les confettis monstrueux du Commonwealth. Il existait, de l'autre côté du monde, une Angleterre améliorée où il faisait toujours beau et où la bière ne coûtait presque rien. Si le monde était une théière anglaise, l'Australie en était le couvercle et Ayers Rock, le petit bouton de porcelaine qui permettait d'agripper celui-ci. On avait même été, pour le bonheur des touristes, jusqu'à en améliorer le grip par l'adjonction de marches et de mains courantes en métal. Qui sait d'ailleurs que les énormes coques de l'opéra de Sydney sont toutes des fragments de la même sphère idéale. L'Australie, plus grande que l'Europe, mais aussi blanche qu'elle, blanche comme un monument néoclassique ou comme les voiles du vaisseau de James Cook, a ainsi voulu nous faire croire qu'elle n'en était que la projection distordue, que l'image déformée par un kaléidoscope passant par le noyau de la Terre. Il est du voyage en Australie, comme de ces tours du monde qu'on effectuait autrefois pour alimenter les pages d'un blog, en évitant, presque à chaque fois, et comme inconsciemment l'Afrique, l'Australie comme antipode idéal, comme Wakanda des Blancs. À la fin des années 90, au début des années 2000, le voyage en Australie a ainsi été intégré implicitement à la plupart des cursus universitaires français. Je regardais moi aussi Hartley cœur à vif, je comprenais l'idée, c'était le pays d'Inexcess, du sourcil percé de Drazik, de Crocodile Dundee. Notre cinéphilie n'allait pas tellement plus loin, nous avions déjà oublié que c'était aussi le pays de la trilogie Mad Max et de la fin du monde. Accessoirement, celle-ci s'était d'ailleurs déjà produite au siècle d'avant pour les aborigènes. Mais le danger principal qui menaçait les touristes restait les projections de la sève du manguier, car c'était des touristes d'un type un peu spécial qui s'étaient fait offrir par le gouvernement australien un visa de travail. Ils pourraient rester là, profiter des plages, du cool et de la bière, en travaillant comme ouvriers agricoles. C'était plus chic que d'aller castrer les maïs, et avec des lunettes de protection et des gants, les attaques du manguier leur laisseraient moins de cicatrices que les feuilles coupantes du trop commun maïs. Le fait sociologique notable est que je connais ainsi plus d'ouvriers agricoles que mes parents qui ont grandi en Mayenne, à ceci près que les miens l'ont fait exclusivement pour le fun. La politique migratoire de l'Australie a ainsi parfois frôlé le génie. Je ne parle pas bien sûr des îles prisons pour demandeurs d'asile. Nous autres Européens méritons un peu mieux. Mais la belle mécanique s'est un peu crispée quand on s'est mis à évaluer les impacts carbone des voyageurs du monde et qu'on a dangereusement rapproché, en revenant à l'étymologie du terme, les routards des antipodes des dieselistes périurbains. Le fils de la voisine parti un an en Australie a eu l'air d'un coup aussi commun, aussi néfaste même, que s'il avait enchaîner tous les samedis soirs de l'année un bistrot romain et un bowling sur le parking du Leclerc. D'à côté, on en était là, les souvenirs du grand tour des milléniaux se corrompant lentement dans la molle nostalgie du mur décrépit de Facebook, et on se serait bien vu vieillir comme Frédéric à la fin de l'éducation sentimentale, au rythme où blanchissait la grande barrière de corail, quand le rêve a soudain pris feu sans prévenir, et que les fantasmes de vie au grand air, de liberté et d'espace infini de toute une génération, la mienne, se sont transformés en cauchemar. Et si nous pouvions, comme Frédéric, survivre à notre jeunesse et conclure sagement de nos initiations dans un faux harem oriental ou dans un pays faussement neuf, que c'était là ce que nous avons eu de meilleur, il n'est pas certain que nous supportions aussi bien et avec le même calme la bascule en miroir de notre futur dans une nostalgie incandescente et irrécupérable.